La cavale calade.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Cavale Calade. Vous êtes sur Calade, ma radio, 100.9 FM. Alors, bonjour Mathieu.
Salut Elodie.
Bonjour Yann.
Bonjour Elodie, bonjour tout le monde.
Alors, notre émission d'aujourd'hui se nomme « De l'or au bout des doigts », spéciale revalorisation des métaux. Notre invité, c'est le bon lingoteur, le lingoteur Monsieur Yann Toyer, artisan lingoteur, artisan fondeur. Yann, notre lingoteur, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs?
Eh bien oui, avec plaisir. Et puis tout d'abord, déjà un grand merci à Radio Calade de me recevoir aujourd'hui, et à toi-même, Elodie. Et puis pour me présenter, moi c'est assez simple, hein, je m'appelle Yann Toyer. Et effectivement, je suis artisan fondeur depuis... un peu moins de 3 ans maintenant, essentiellement sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui c'est compliqué de se faire d'avoir un peu de visibilité sans les réseaux sociaux, internet et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà.
Alors une grande communauté, hein, plus de 800 abonnés sur TikTok, Facebook,
tout
une sacrée communauté. Hein.
Oui, c'est une communauté qui est grandissante et puis je les remercie au quotidien. J'essaie de penser à eux tous les jours parce que c'est des gens qui, des followers, des gens qui vous suivent au quotidien par définition. Donc on pense à eux, c'est un peu une grande famille. C'est vrai que c'est un peu une grande famille parce que moi, je partage mon contenu, si vous voulez, c'est mon travail. Donc je partage mon travail au quotidien. Et mon travail en tant qu'artisan, c'est ma vie, hein, un petit peu. On y passe quand même du temps. On y passe bien souvent les samedis, bien souvent des week-ends. Et tout ça, on le partage avec la communauté. C'est ce qui fait que les gens apprécient. Parce que c'est un petit peu la télé-réalité du travail. Voilà, tout simplement. En toute transparence. C'est ça qui est... Il y a un lien qui se crée, forcément. C'est les gens qui vous poussent aussi. Hein. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai presque 500 000 abonnés sur TikTok. C'est incroyable hein, pour un modeste petit artisan comme moi, parce que moi, j'habite dans le 36. Je suis en pleine campagne, je suis à côté de Châteauroux. Alors, c'est super sympa, hein, mais je veux dire, par là, je suis dans un petit village où il y a 400 habitants. Donc, on n'imaginait pas avoir un tel succès avec nos petits lingots. Voilà, déjà, dans un premier temps, c'est une très bonne surprise. Et puis, on travaille en ce sens. Tous les jours, voilà.
Alors, on en garde un petit peu pour notre interview, Yann. On va parler un petit peu de métaux. On va donner quelques informations sur certains termes à nos auditeurs. Donc, première partie, quelques informations sur les métaux, sur le travail autour de l'or, les métaux précieux. Bien sûr, Yann, tu interviens, n'hésite pas.
Il n'y a pas de souci.
Alors, l'orpaillage, parlons-en. Qu'est-ce que l'orpaillage? L'orpaillage, c'est la prospection et l'extraction artisanale d'or à partir de puits individuels ou de rivières. Le Rhône, qui est notre fleuve local. Hein,
oui.
Oui, parce que le Rhône est un fleuve, hein, on est bien d'accord.
Ouais, d'accord.
Le Rhône est aurifère, figurez-vous. Il est réputé aurifère parce qu'il est alimenté par des rivières qui sont l'Alodon, l'Arve, le Chéran, Fière, Luce, la Saône aussi, le Doubs, le Gier, l'Ardèche. L'Ardèche qui avant s'appelait Elvie d'ailleurs. Et qui sont donc des rivières, pour le coup, qui transportent l'or. On a des textes du 19e siècle, du 15e et du 16e siècle qui nous confirme qui aurait été accordée aux orpailleurs par la ville de Genève. Donc voilà, l'orpaillage, c'est réglementé. Hein, l'orpaillage est réglementé par le code minier. Est-ce que vous saviez que ça existait, le code minier?
Non.
Non,
c'est réglementé, l'orpaillage, c'est comme beaucoup de loisirs aujourd'hui, hein, je me permets d'intervenir,
oui, oui.
mais aujourd'hui, l'orpaillage, moi si vous voulez, j'ai la chance d'avoir dans ma communauté beaucoup de personnes qui pratiquent la détection de métaux de loisirs,
oui,
ainsi que l'orpaillage, et vous savez, la dépollution en faisant de la chasse à l'aimant dans les rivières, etc.
Oui. Ouais.
Donc tout ça, c'est ces trois loisirs qui se rejoignent. C'est mon loisir également. J'ai d'ailleurs une petite boutique aussi, l'échoppe du Bon Lingoteur, où je propose tout pour l'orpaillage, tout pour la détection de métaux, et tout pour la pêche à l'aimant. Voilà, je fais ça également. Donc c'est un milieu que je connais assez bien et qui est, c'est des très belles passions, c'est des très beaux loisirs, mais il faut que ça soit bien fait et c'est très encadré. Il faut
exactement, donc le code minier, l'article 7, l'orpaillage doit être une déclaration à la préfecture avec la date, le lieu, le type de matériel. Les engins mécaniques sont interdits. Et quand on pratique l'orpaillage dans les rivières, on demande aussi à ne pas creuser des trous trop profonds pour ne pas perturber la vie aquatique. C'est ce que tu disais, c'est extrêmement réglementé.
Et tout à fait, parce que le but, c'est que ça reste un loisir, si vous voulez. C'est pas une, c'est, on n'est pas professionnel de l'orpaillage en France aujourd'hui, c'est pas possible. Donc c'est un loisir qu'on peut se permettre quand les préfets sont d'accord, quand tout le monde est d'accord, quand c'est bien fait. Voilà. Malheureusement, c'est comme la détection de métaux. Aujourd'hui, c'est un très beau loisir qu'on peut pratiquer chez soi ou dans de bonnes conditions, mais c'est comme partout. Voilà, faut que ça soit bien fait. Il y a eu peut-être des brebis galeuses et c'est compliqué. C'est des sujets compliqués parce que c'est des très beaux loisirs et malheureusement qui sont parfois mal faits. Et malheureusement, c'est les gens intéressants, les gens qui veulent se faire plaisir qui en pâtissent, bien souvent. C'est assez compliqué tout ça. Ouais.
Exactement. Donc, localement, vous connaissez peut-être, on a la Chippewa Loisirs Nature qui se situe à Propierre, qui propose des ateliers d'initiation à l'orpaillage. Donc, ils ne proposent pas que ça. Hein. Il y a aussi des balades en chien de traîneau. Je parle de Chippewa Loisirs Nature, pourquoi ? Parce qu'ils ont participé à la Coupe d'Europe d'orpaillage en 2011.
D'accord. C'est voilà. Celui qui trouve le plus d'or.
Ah, c'est sympa, je connaissais pas, c'est sympa.
Une sacrée pépite.
J'ai regardé ça.
Voilà, tu pourras regarder la Coupe du Monde d'orpaillage, hein, la Coupe d'Europe d'orpaillage. Alors, écoutez, chers auditeurs, est-ce que je nous propose la pause musicale ?
Tu voulais pas nous parler d'affineur d'or ?
Allez, alors parlons des affineurs d'or. Merci Mathieu. Donc encore un petit terme. Est-ce que vous connaissez le métier d'affineur d'or ? C'est un métier qui a disparu malheureusement. Il s'agissait des tireurs d'or. Le tireur d'or, c'est quoi ? Alors ce sont des personnes qui travaillaient avec les soyeux en passementerie. Est-ce que ça vous connaissez ?
Non, alors ni soyeux ni passementerie.
Non, les soyeux en passementerie, ce sont donc des personnes qui travaillaient les tissus précieux, dont la soie. Et la passementerie, c'est tout simplement la couture de fils d'or. Okay. Donc, pour coudre les fils d'or sur les costumes précieux de l'époque, il fallait qu'il y ait le métier de tireur d'or. Ce sont des personnes qui tiraient l'or, tout simplement, qui le rendaient extrêmement malléable pour qu'ensuite il puisse être utilisé en couture.
Comme faire des fils avec de l'or.
Alors, ces métiers utilisaient des argues. Est-ce que tu connais ce terme, Yann ?
Alors, non, je connais pas ce terme, mais c'est vrai que l'or, c'est... Alors, moi, je suis négociant en métaux précieux, donc c'est mon métier également. Je négocie des métaux précieux, je vends de l'or, je possède mon poinçon de maître.
Ah,
mon poinçon de maître, c'est ce qui me permet de commercialiser des ouvrages en or ou en argent. Voilà, par exemple, quand on commercialise un petit bijou en argent, en or, ou quoi que ce soit, quand ça fait plus de 3 grammes, il doit être apposé le poinçon de garantie du bureau des douanes. Donc, c'est le premier poinçon qui va identifier la pureté du produit, voilà. Qui va déterminer la pureté des produits, oui. Et le poinçon de maître, c'est mes petites initiales que je mets dessus. Donc l'or, ça me connaît, c'est mon métier, et c'est vraiment toute une histoire. L'or, c'est pas d'hier, effectivement,
mais depuis
des millénaires,
c'est toute une histoire.
Tout après-midi.
L'or, c'est vraiment toute une histoire. Quand on s'intéresse à l'or, évidemment, on va parler des monnaies, de la monnaie de Paris. Donc, pour revenir à l'argue, c'était une machine qui était utilisée pour tirer et dégrossir les métaux, fils pour en faire vraiment des fils, hein, des fils d'or. En 1672, un édit entreprend de contrôler cette profession et d'interdire l'affinage et la fonte de métaux dans les foyers, sauf pour l'hôtel des monnaies de Paris et de Lyon. Pourquoi donc ? Parce qu'on pouvait conserver les argues royales qui servaient donc à purifier l'or uniquement dans ces lieux. C'était un but fiscal, évidemment. Hein.
On en revient là.
Complètement.
Mais, pour parler des affineurs, je rebondis un petit peu, c'est pas que je veux tirer la couverture à moi, mais si vous voulez, moi je pense que mon petit succès, je le dois aussi à ça, c'est que ça, c'est quelque chose que je suis le seul à proposer, c'est-à-dire de couler des petits lingots comme ça, face cam. Dans mes ateliers, il n'y a personne qui propose ça. Alors, je peux le faire parce que, effectivement, je travaille l'or nordique, qui n'est pas de l'or véritable, qui n'est pas un métal précieux.
Alors, on va en parler.
Je pense que c'est ça qui fait le succès, c'est que c'est des métiers qui n'existent plus, quoi, tout simplement.
Exactement.
C'est des métiers qui sont... C'est très compliqué.
Exactement. Yann, est-ce que tu veux nous proposer la petite pause musicale ?
Bah bien sûr, en pause musicale, j'ai choisi pour faire plaisir à ma femme, Slimane, Des milliers de je t'aime. Voilà. Ça va faire plaisir, je vais me faire bien voir en même temps.
On l'écoute, merci.
Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras.
Nous aussi, on vous aime sur Calade Ma Radio. Vous êtes à nouveau dans l'émission Cavale Calade, toujours sur 100.9 FM, toujours avec Mathieu et notre invité, le lingoteur Yann Toyer. Yann, es-tu toujours parmi nous ?
Oui, je suis toujours là, présent.
Alors, Yann, deuxième partie de l'émission, nous allons parler de ton activité. S'il te plaît, Yann, peux-tu nous expliquer, donc, reprendre depuis quand ? Et comment en es-tu ? Quel parcours qu'est-ce qui t'a amené à devenir lingoteur ?
Eh bien, on va reprendre depuis le début. Je vais essayer de faire ça rapidement, mais pour être bref, c'est une très belle aventure parce que c'était pas un métier. J'étais pas professionnel du lingot avant de devenir lingoteur. Moi, si vous voulez, j'ai plutôt une formation de commercial de base, voilà. Oui. Et j'étais vendeur chez Peugeot. Je vendais des véhicules neufs pendant presque une dizaine d'années avant de faire ça. Et jusqu'au confinement. Voilà. Au confinement, je me suis retrouvé un peu comme tout le monde, c'était très compliqué. J'étais chez moi, professionnellement, on ne pouvait plus recevoir les clients, on ne pouvait plus avoir de voitures neuves parce que ça venait beaucoup de composants de Chine, etc. C'était très compliqué. Donc on s'est retrouvé à la maison et puis j'ai décidé de faire un petit peu ce que j'aimais faire parce que j'avais déjà le plaisir de la fonderie, mais je faisais ça vraiment de façon comme un loisir créatif, de façon pour me détendre, etc., les week-ends. Donc j'ai ouvert un petit compte sur les réseaux sociaux, chose que j'étais pas du tout réseaux sociaux. J'ai ouvert ça pour me faire plaisir parce que c'est vrai que les réseaux sociaux étaient en plein boom, et comme tout le monde, je commençais à devenir un petit peu consommateur. Donc ça m'a donné envie, tout simplement. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer pour faire voir un petit peu ce que je faisais, parce que je faisais mes petits lingots déjà, j'avais l'idée de faire ça. Je les faisais pas en or nordique. Oui, au départ, je faisais des petits lingots de cuir, de tout, etc. Et que je personnalisais plutôt pour mes proches, pour faire des petits cadeaux. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce que l'or nordique? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'or nordique, mais aussi l'or 18 carats, 24 carats? Quels sont les métaux que tu fonds? Et puis, quels sont aussi... Du coup, j'imagine que tu as monté ton entreprise.
Ben, tout à fait. C'est venu naturellement. Hein. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, les réseaux, j'ai une petite communauté qui s'est mis à me regarder du jour au lendemain, à me soutenir hein, devant mon petit four. Je leur ai expliqué que simplement, pour l'instant, j'avais plus mon job et puis j'avais un petit peu de temps à passer avec eux. On s'est mis à faire de la fonderie tous les jours. Voilà, ça a duré pendant au moins un mois comme ça. Et je me suis retrouvé avec déjà presque 50 000 abonnés, vraiment d'un coup. Et on m'a encouragé, on a réfléchi avec mes abonnés. L'idée, c'était de les faire dorer, les petits lingots, pour que ça ressemble à un petit lingot d'or, et puis de les commercialiser, et puis d'en faire mon métier, tout simplement. C'était vraiment l'idée de base. Mm-hmm. Et on a choisi l'or nordique. L'or nordique, pourquoi ? L'or nordique, c'est quelque chose qui est très connu, c'est un alliage. C'est l'alliage qui compose vos pièces de monnaie, d'euros actuellement. Les 10 centimes, les 20 centimes et les 50 centimes. Donc c'est un alliage qui est déjà bien connu, qui nous vient de Suède. C'est les Suédois qui ont commencé à frapper leur monnaie avec ça, les couronnes suédoises dans les années 1990, à peu près.
D'accord.
Et l'euro a emboîté le pas en 2000, hein, voilà, en 1999, ils ont commencé à fabriquer des pièces. Ils ont choisi cet alliage parce que c'est non allergène, ça ne se décolore pas, c'est pas très très onéreux, parce que c'est composé de 89% de cuivre, 1% d'étain, 5% de zinc et 5% d'aluminium. Ça ne contient pas d'or. Comme on l'entend, le métal précieux d'ailleurs, on devrait presque appeler ça un alliage nordique. L'or nordique, on a appelé ça comme ça parce que c'est venu avec le temps. Tout le monde a donné cette dénomination-là parce qu'on a fabriqué les monnaies avec, etc. Mais ce n'est pas un métal précieux, il ne faut pas tout confondre. Voilà. Mm-hmm. Ça, il faut bien que ça soit dit. C'est ce que j'explique au quotidien sur mes réseaux sociaux. Ça, c'était vraiment mon boulot premier.
Tu travailles aussi l'or, l'argent, le bronze.
Alors ça, c'est venu ensuite.
Mm-hmm.
Ça, c'est venu par la suite. Peut-être une petite année ensuite, j'ai demandé justement ma déclaration d'existence de douane, mon poinçon de maître, pour pouvoir commercialiser des métaux précieux et fabriquer mes petits lingots personnalisés que je faisais déjà en or nordique, les fabriquer en argent, que tu as un petit peu plus noble pour certaines personnes, voilà. Ça m'a permis d'asseoir un petit peu ma société également et de vendre mes petits lingots de 1 gramme et de 5 grammes d'or véritable, qui sont en 24 carats.
Alors, ce qui m'intéresse, la question que je tiens à te poser, c'est comment est-ce que tu te procures tes matières premières?
Alors, les matières premières, c'est simple comme bonjour. En ce qui concerne ma partie or nordique,
oui,
tout simplement, je vais à la recyclerie de ma région. Moi, je vais à Châteauroux, vous êtes chez moi. Mmh. Et puis je prends tout simplement des matériaux à recycler, quoi. Simplement.
C'est-à-dire, ça paraît simple, n'importe qui peut aller à la déchetterie, récupérer du...
Ah bah bien sûr.
Explique-moi.
Eh bien tout simplement, imaginons les gens qui chinent un petit peu la ferraille, tout ça, vous avez déjà vu ça, les gens qui remettent du cuivre, etc. Eux, ils vont le vendre à la recyclerie de leur région.
Mmh.
Ils vont le vendre 6-7 euros. Et puis nous, en tant que professionnels, on l'achète 10-11 euros, quoi, ouais, quelque chose comme ça. Si vous voulez, ils recyclent sûrement en grande quantité, mais si vous y allez, ils vous en vendent une partie sans aucun souci.
D'accord, donc tu revalorises des déchets de métaux.
Ben, c'est pas des déchets, non, attention.
Oui, de la matière, des métaux.
Oui, voilà, simplement. Savoir que le cuivre, c'est toujours le même depuis la nuit des temps. Hein. Ça, c'est-à-dire c'est jamais usé, hein, du cuivre ou de la matière première. Depuis, les Égyptiens avaient déjà un hiéroglyphe pour nommer le cuivre. C'est pas d'aujourd'hui. Oui. Le cuivre, c'est ce qu'on a dans le sol, partout. C'est ce qui nourrit les arbres. C'est ce que vous avez en vous. C'est toujours la même chose. Si oui, c'est pas organique, quoi. C'est ça.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, je récupère mon étain, mon cuivre, mon zinc, mon aluminium. Et ensuite, je fabrique mon alliage chez moi. Je reproduis l'alliage, l'or nordique, qui composent vos pièces de monnaie. Oui, parce que des fois, il y a l'amalgame. Les gens peuvent se dire, ils font des pièces de monnaie. Alors, surtout pas.
Mm-hmm.
C'est pas ça le but de la manœuvre, enfin, si vous voulez.
Oui.
Donc, au-delà de ça, c'était pas gagné d'avance. J'imaginais bien que, quand on va expliquer aux gens qu'on vend des lingots d'or entre guillemets, qui sont pas en or, c'était pas gagné d'avance sur le papier. Mais ça a fonctionné parce que c'était un concept où les gens m'ont suivi depuis le début.
Oui.
Et m'ont vu personnaliser ces petits lingots. Et si vous voulez, c'est comme un souvenir, un hommage, ou on va dire que c'est affectif, c'est romantique.
Il y a la partie artisanat où il y a une technique que vous avez dû apprendre, mais j'imagine qu'il y a une partie artistique aussi.
J'ai inventé un métier qui n'existe pas. Donc déjà, j'ai dû commencer à chaque jour de découvrir, et puis m'adapter, refaire, et refaire encore, et puis jusqu'au moment où maintenant je deviens pas trop mauvais. Avec mes 3 ans d'expérience, je commence à savoir faire mon travail. Alors j'ai la chance qu'il n'y a que moi qui propose ça. Alors c'est bien sûr sans prétention, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment sans prétention. Je fais ça presque dans mon jardin, c'est une petite annexe de ma maison. Mais je suis le seul au monde à proposer ça, le petit lingot personnalisé. Ça prend une dimension, on parle, mon petit lingot, je le vends 34 euros. Vous voyez ? Et les gens, souvent, ils confondent le prix et la valeur des choses. Parce que le prix, c'est 34 euros de mon petit lingot. Mais quand je le personnalise et puis je marque Enzo dessus 11-02-2020, et que le papa de Enzo, il a acheté ça, quand il m'a vu travailler...
C'est une valeur sentimentale que tu apportes en plus.
Il va l'offrir à son gamin, qui a 8 ans, qui regarde les vidéos du bon lingoteur. Tous les soirs, il s'endort en regardant la fonderie, les trucs sympas. Je le berce. Et il regarde ça. Quand il aura 60 ans, Enzo, son papa, il aura cassé sa pipe. Et il se rappellera toute sa vie du jour où le petit lingot du bon lingoteur, il a été offert par son papa.
Oui.
Et il pleurera sur son petit lingot, en pensant à son papa. Parce que le petit lingot du bon lingoteur, c'est pas une merde chinoise, c'est 34 euros. Si c'est parfondu à 1100 degrés dans un four, il peut y avoir une bombe nucléaire, il sera toujours là, le lingot. Vous le posez sur l'étagère, le petit lingot du bon lingoteur, la maison elle sera détruite dans 2000 ans, dans les décombres, il restera mon petit lingot, il n'aura pas bougé d'un millimètre. Donc si vous voulez, c'est un petit souvenir éternel, ça fait plaisir aux gens. Voilà. Au même titre qu'un bouquet de fleurs, à 30 ou 40 euros, j'adore les fleurs,
oui.
Mais qui sera fané dans 15 jours,
éphémère.
Là, le petit cadeau, il va le garder éternellement. C'est ça qui trouve joli les gens dans le concept, et que ça soit fait avec le cœur. Voilà. Parce que, comme je t'ai expliqué, je suis vendeur de voitures, je suis pas manchot en plus, je vais faire mon travail, j'ai très bien gagné ma vie. Là, aujourd'hui, c'est pas une question d'argent, c'est quelque chose que je fais avec le cœur.
Alors,
j'ai 40 ans, il y a peut-être la crise de la quarantaine aussi qui est venue là-dedans, peut-être, je ne sais pas.
Mais alors, Yann...
Et une question de Elodie, ouais.
Oui. Vas-y. Ah oui, oui, alors justement, Yann, pour les artisans qui nous écoutent, pour les petits commerçants, donc les artisans, les commerçants, voire même les petites PME, qui n'ont pas de budget communication, qui n'ont pas de formation encore pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très nouveau, tu nous l'as dit toi-même, hein, ça, tu t'y es mis il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es l'artisan fondeur de France le plus connu des réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, un pionnier finalement. Tu as une immense communauté, tu as eu un succès phénoménal du début. Hein. Quel est, selon toi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux pourraient être un outil de communication ? Qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux comme outil de communication pour les artisans, commerçants, voire même petites PME qui ont pas de, qui ont peu de budget pour la communication ?
Ah bah pour te répondre comme ça, c'est magique. Hein. C'est un outil qui est vraiment, moi je pense, de première importance pour tous les artisans, commerçants, tous les gens qui ont quelque chose à proposer, à faire voir. Je pense que la visibilité, elle est là. Et après, c'est la loi du nombre, hein, de toute façon. C'est la loi du nombre. À un moment, s'il y a 30 personnes qui passent dans votre boutique et qui voient ce que vous êtes capable de faire, et si vous proposez bien votre produit sur Internet et qu'il y a 300 000 personnes qui voient votre travail, forcément que ça va pas être les mêmes résultats. Hein. Donc j'encourage vraiment tout le monde à communiquer sur les réseaux sociaux, parce que maintenant ça a été fait pour que c'est fait pour être facile. Hein. C'est vraiment de franchir le cap, de se lancer, parce que l'outil, je veux dire, quand c'est fait pour être facile, c'est que l'outil est facile. Pour poster, pour organiser un petit compte TikTok, un petit compte Facebook, c'est assez facile.
Mmh.
Après, la difficulté, c'est qu'il faut, exister, quoi. Voilà, il faut exister, donc il faut y passer du temps. Voilà, il faut s'investir, parce que c'est pas on poste son travail et puis on s'en va faire autre chose, on attend. Il faut qu'il y ait une vraie relation. avec la communauté que tu souhaites rencontrer, quoi. C'est
donc
ça,
ça demande, il y a un côté humain hein, dont tu parles, oui. Ça demande de la transparence, de la communication.
C'est primordial parce que les gens voient une personne. Ils voient une personne d'abord. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, ils voient une personne. Qu'est-ce que fait cette personne? Ouais, souvent, c'est ça. Ouais, et même quand ils s'intéressent à votre travail, c'est les réseaux sociaux. Vous vous présentez, vous êtes là, ils veulent savoir. Il faut être clair, il faut être sincère, tout simplement.
Est-ce qu'on peut dire qu'il faut être prêt aussi? Un artisan qui travaille avec les clients qu'il a sur son réseau local, demain il se met aux réseaux sociaux, donc ouverture fenêtre sur la France entière. J'imagine que les commandes explosent. Il faut être prêt aussi à ce virage.
Il faut être prêt. Moi, j'ai eu ça. J'ai rencontré un succès fou d'un coup. Hein. Et il faut faire face. Alors après, on a la chance maintenant avec les outils Internet de pouvoir maîtriser un petit peu ces choses-là et puis d'avancer à ça. Il ne faut pas avoir peur du succès. On va dire que c'est des bons problèmes. Alors quand on en est là, on va dire que c'est des bons problèmes. Mais effectivement, il faut y songer et il faut s'organiser. Ça, c'est ce que je...
Et en parlant du succès, des projets de développement, des projets de reprise pour plus tard, tes enfants, je ne sais pas. Quels sont les projets du Lingoteur ?
Je me souhaite. Alors, les projets du Lingoteur, il faut être honnête que on avance pas à pas avec notre communauté grandissante. Donc, j'essaye de... Alors, là où il faut prévenir les gens aussi, c'est que là, moi, par exemple, je fais le boulot de 15 personnes presque. Hein, parce que forcément, on grandit très vite. Mmh. Et il y a les outils marketing qui vont avec. Donc, j'ai deux boutiques en ligne à gérer. J'ai plusieurs réseaux sociaux. J'ai plein de choses à gérer en même temps. Il me faudrait des webmasters, il me faudrait des gens un petit peu de partout, quoi. Et c'est pas facile de croître en même temps que tout ça. C'est pas facile. Donc là, aujourd'hui, la vision du Lingoteur, c'est d'organiser tout ça. Et puis, sûrement commencer à embaucher maintenant. Je pourrais pas m'en sortir tout seul, ça c'est certain. Donc, il va falloir organiser un petit peu tout ça. J'ai déjà une personne là qui est restée presque 6 mois en CDI avec moi. Donc on a déjà commencé à passer le pas. Mais le souci, c'est qu'au bout de 6 mois, c'est compliqué. C'est un boulot ça reste de l'artisanat. Ça reste un boulot dur, hein, de faire des lingots. Mm-hmm. Ça reste un boulot pénible. Ouais, c'est ça. Ça reste un boulot pénible. Et peut-être qu'aussi, les ouvriers, tu sais, ils n'ont pas le même rapport que j'ai moi avec les réseaux. Ou tous les deux lingots, je vais faire ma petite vidéo d'amour, je vais parler avec mes abonnés. Hein. Donc c'est ça que je dois organiser. Hein. C'est parce que là, effectivement, je fais ça dans mon atelier, chez moi. C'est pas simple. Donc je pense qu'on va croître dans ce sens-là pour pouvoir aussi adapter les locaux, etc.
Très bien. Merci Yann. On va raccourcir l'émission. J'aurais aimé allonger le sujet. Plein d'autres choses à dire encore. Du coup, pour clôturer cette émission, Yann, est-ce que tu peux nous dire à nos auditeurs comment est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Qu'est-ce qu'il faut taper?
Et pour me trouver, c'est simple. Hein, vous tapez sur TikTok Le Lingoteur.
Oui.
Sur Facebook, c'est mon nom et prénom, c'est Yann Toyer. Voilà.
Oui.
Et puis ma boutique, c'est la boutique du trouveur, comme quelqu'un qui trouve. La boutique du trouveur. Voilà, vous me trouvez sur Internet, vous me trouvez assez facilement. C'est la chance avec les réseaux.
écoutez, Yann, je te remercie pour ta participation à cette émission.
C'est moi qui vous remercie infiniment parce que je me fais ma petite visibilité, tant bien que mal. Alors, je vous remercie pour toutes ces éloges, mais je suis encore pas célèbre comme Johnny Hallyday, j'aimerais bien, malheureusement. Mais je me fais moi-même ma petite visibilité. Mais c'est vrai, comme je travaille beaucoup et j'ai pas tellement le temps d'aller me tourner un petit peu vers les radios, etc. Parfois des gens qui veulent parler un petit peu avec moi et c'est quelque chose que je vais prendre en compte par la suite. Donc je vous remercie infiniment.
C'est le travail de Caladma Radio d'allumer le feu pour les fondeurs. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée à nos auditeurs. Ciao, ciao.
La cabale calade.